Donc, ce que pour la création, moi, un jour, je faisais une maison à Athus. C'était une maison sans cave. Donc, les fondations n'étaient pas profondes. Et c'était une maison pas chère. Les gens voulaient une maison pas chère. Et souvent, moi, j'acceptais d'étudier des maisons pas chères, mais bien faites quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, hein, beaucoup de gens, ils en ont marre d'être dans les grands bâtiments, et ils voulaient une belle petite maison. Donc, j'ai acheté des blocs qui étaient faits en Allemagne, des blocs Poroton, qui sont très isolants à cette époque-là. Maintenant, on en fait en France, mais ils sont de moins bonne qualité. Et ils trichent. Et pratiquement, si vous voulez, la maison était faite, mais les fondations, elles étaient à ça de profond. J'ai trouvé des coquillages, des ammonites, toutes sortes de choses, comme on en trouve à 100 mètres, 200 mètres de profond dans les mers, et qui sont considérés avoir des millions d'années. J'ai trouvé les mêmes, mais moi j'ai fait de la biologie, j'ai un diplôme de prof là-dedans, et j'ai reconnu ça. Et c'était à moins d'un mètre de profond. Au même moment que je faisais la maison, je passais le long de la route, à Aix-sur-Cloix. Donc, il y a un rond-point là, et on va vers les pompes à essence, vers la France, où on continue un peu. Et juste derrière ces fermes-là, ils installaient les lignes à haute tension. Ils avaient prévu de faire des trous énormes de 5, 6, 8 mètres de profond, mettre des blocs de béton pour des pylônes à haute tension qui résistent à la tempête. Et ils sont tombés là sur des os de dinosaures. Ils n'en ont jamais parlé dans la gazette. Jamais, rien. Parce que quand ça contredit leur théorie, on n'en parle pas. Et c'est dans de l'argile récente. J'ai fait des fouilles archéologiques quand j'étais jeune, 18 à 22 ans, avec d'autres qui étaient plus expérimentés, bien sûr, qui m'ont appris. Et il faut compter que pour un siècle, il y a 6 cm à 10, 12 cm de terre qui s'ajoutent sur le sol, par le vent, etc. Surtout quand il y a une petite pente. Donc, vous avez en un siècle 6 à 12 cm. Si vous multipliez ça par X siècles, vous avez l'épaisseur. Naturellement, il peut y avoir à certains moments beaucoup plus de pluie, plus de vent. Ça peut arriver que ça varie, l'épaisseur. Mais ce qu'il y a, c'est que les dinosaures qui sont là, ils ont laissé le trou, ils ont mis des tentes, les archéologues, les historiens sont venus, et ils ont fait un trou plus loin, ils ont continué à construire la ligne à haute tension. Mais nous sommes dans une philosophie athéiste, une politique athéiste, donc il faut que les gens connaissent la même leçon. Tous, c'est comme pour le Covid, il faut tous être vaccinés. La même leçon pour tout le monde, une pensée unique. Et surtout pas de pensées qui sont contraires. Même en histoire, j'ai découvert le domaine à la sortie du village. Le responsable du musée m'avait confié la fouille. J'ai trouvé des haches en silex, des flèches de silex. J'ai pris des colonnes de pollen qu'on a fait analyser à Bruxelles, au musée d'histoire naturelle. J'ai pris des coupes horizontales dans les feux où on avait incinéré les hommes, les femmes. Et tout ça est parti. Et puis j'avais 250 sachets avec des silex et toutes sortes de choses, des morceaux d'eau. Le grand malheur, c'est que, enfin, malheur si on peut dire, parce que pour moi ça ne change rien, mais ce qu'il y a pour l'histoire, le sens de l'histoire, ça change quelque chose, c'est que le responsable du musée a fait venir un archéologue tout seul, pas une équipe. Donc quand on est tout seul, on fait ce qu'on veut. Et il a mélangé tous ces silex-là, ces morceaux d'eau avec des autres fouilles, il a fait des théories abracadabrantes, et il a raconté que ce dolmen n'était pas un vrai dolmen, etc. C'était une accumulation de pierres, etc. De glissements de terrain. Or, toutes ces pierres ne sont jamais formées là, elles sont formées à 7-8 km, c'est prouvé scientifiquement. Donc, déjà, il avait menti. Mais ce qu'il y a, il a pris le plan, tout le plan que j'avais fait, il a pris tous les sachets. 40 ans après, j'avais 58 ans, je demande au musée de réunir des archéologues de métier, pas des chrétiens, tous des athées, et on visite les lieux, etc., et on discute le coup. Et puis après, le temps de midi, je leur pose la question, qu'est-ce que vous pensez de Lucie, là, en Indonésie, l'espèce de
C'est pas en
femme
Indonésie,
singe,
c'est
ou
en
je sais,
Afrique.
en Afrique, et puis d'autres trucs. Je pose la question. Ils rient tous. Ils rient tous, et disent, mais monsieur, voyez. La théorie des chaînons manquants, c'est de la blague. Au niveau scientifique, ça n'existe pas. Ce sont tous des athées. Et c'était tous des gens payés par l'État, par les universités. Alors pour moi, le problème est clos. Il est clos. Pour moi, quand on est honnête, on n'invente pas des théories qui ne tiennent pas la ligne. Monsieur Darwin a fait une confession de 35 pages que sa secrétaire a notée à sa mort en disant qu'il avait tout fait pour détruire la Bible. Donc le combat est spirituel, il n'est pas seulement pour la vérité scientifique. Alors, ça c'est le monde dans lequel nous sommes, pensés, et nous sommes. Et il y a une pensée unique qui cherche à diriger toutes les pensées d'Europe vers une politique athéiste et une morale athéiste. Je dirais même plutôt contre Dieu et contre les valeurs judéo-chrétiennes. C'est pas tellement mon problème, parce que chacun aura son jugement devant Dieu. Mais je trouve ça regrettable. Le minimum chez un être humain, c'est d'être honnête. Qu'il soit croyant ou athée, honnête. Et de chercher le pour et le contre de ce qu'il pense. Alors, j'ai pris Jean chapitre 10, verset 10, aujourd'hui, 9 et 10. Jean chapitre 10, prenez votre Bible si vous voulez bien. Faites attention, le danger des écrans, c'est qu'on n'ouvre plus les Bibles. Hein. Et des gens, le danger d'Internet et tout ça, des téléphones, c'est qu'on n'ouvre plus sa Bible pour lire et pour travailler, avec un cahier et un bic. Ce qui a été fait pendant des siècles. Jean chapitre 10. Bon, je me suis réveillé avec une espèce de mauvais rêve, etc. Déjà hier soir, j'étais énervé, un peu avant. Plusieurs choses s'accumulent. On nous a volé une remorque, on nous a volé un groupe, un compresseur, une débroussailleuse, un téléphone. Et puis après, il y a des autres problèmes. Mais ça, ce n'est pas des problèmes matériels, des problèmes humains dans ma famille. Dont je me tais. Alors, qui me font du tort, mais que je préfère mettre à Dieu. Alors, dans tout ça, ça fait que j'arrive, comme pour prier au matin, je me lève très tôt, j'arrive pour prier, je suis en train, je veux prier, puis ça cafouille, ça, je m'en mêle. C'est comme un poisson qui est, si vous voulez, une tortue qui est emmêlée dans les filets d'un pêcheur, quoi, hein. Et ça, c'est particulier à la prière, on a des combats. Ce n'est pas toujours la grande quiétude. Jean chapitre 10. C'est pas possible que je me sois trompé comme ça. Pendant que. Attendez, hein. J'ai fait une bêtise. J'ai noté quelque chose de fou. Oui, il faut que je regarde. Hein. Excusez-moi. Pourquoi ? Vous voyez, même pour noter, ça me touchait. Ça me touchait même pour noter dans mon étude. Vous savez, pendant que vous avez le jour, je suis la lumière du monde, pendant que je suis là, vous êtes. Il faut que je retrouve ce verset. C'est pas simple. Il ne faut pas demander à quel point ça me touchait. Certaines choses me touchaient et me détraquaient, ça arrive. Hein. Ah oui, voilà, c'est 11. Hein. 11. Au verset 9, faites bien attention à ces versets-là. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Ça veut dire, il ne trébuche point, il ne tombe point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, c'est-à-dire il tombe, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Bon, on peut être chrétien, et figurez-vous, trébucher. C'est la réalité qu'il faut accepter. Marcher pendant la nuit, trébucher, même dans la prière, Même entre frères et sœurs dans une église, on peut trébucher. Même tout seul, au boulot, autre part, avec des athées, on peut trébucher. Par les mots, par les actes, par les pensées. Parce que trébucher, marcher pendant la nuit, ça veut dire, tout qu'on fait ceci, nous suivons notre impulsion individuelle, intentionnelle. Nous suivons notre mouvement intentionnel interne. Nous suivons notre pensée. Et nous pensons, nous croyons que c'est la meilleure. Nous croyons que c'est la meilleure, puisque c'est la nôtre. Eh bien, Pierre, par exemple, a frappé à tort Malchus. Dans Luc, chapitre 22, versets 49 à 51, au mont des Oliviers, il a pris l'épée, il a tranché l'oreille à un homme, un serviteur, un petit exécutant de la basse besogne, qui n'avait rien à dire, et Jésus a pris l'oreille et lui a remis. Et il a admonesté sévèrement Pierre. Parce que Pierre a suivi son impulsion, il a suivi sa meilleure intention, c'était de défendre son Seigneur Jésus. Et figurez-vous, Jésus n'était pas d'accord. Il fallait laisser faire. Alors nous allons aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. Nous reviendrons à ce texte après, hein. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. Ce ne sera jamais facile d'être chrétien. Nous pouvons parfois être à un moment donné une marmite à pression. Nous pouvons parfois vivre les choses intérieurement. Et il faut arriver à avoir clair dans tout ça, à gérer. Et ce n'est pas forcément avec la psychologie et avec les bons bouquins qu'on arrive à régler ça. La vraie vie chrétienne se règle avec le Seigneur. Mais bon, la parole de Dieu est là, il faut aussi pouvoir l'expliquer. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, que le « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Le mal, c'est parfois ce qu'on croit qui est bien. Ce qu'on croit qui est bien, et qui en fait, aux yeux de Dieu, est mal. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Ce que moi je pense bien, que je réagis, mais pour Dieu c'est mal. Alors, nous avons une attitude subjective, mais l'attitude objective, c'est de connaître la pensée de Dieu à mon égard. Ok ? Et il faut faire attention. Donc verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc vous voyez, c'est Dieu qui est ici, Paul souhaite, il donne ce vœu-là aux Thessaloniciens, que Dieu lui-même mette la paix, dans quoi? Dans l'être, l'esprit, l'âme et le corps. Il donne la paix. Et lui-même tout entier, c'est-à-dire pas à moitié. Pas à moitié. Et quelle que soit la situation. Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc Dieu a la capacité de me donner la paix, quelle que soit la situation, et de me la donner entièrement, et de renouveler ma position, qu'elle soit objectivement en paix. Si elle est subjectivement en paix, ça ne durera pas plus qu'une journée, ou qu'une heure, ou cinq minutes, ou qu'un mois. Alors, nous allons continuer. Pierre dit ceci dans la première épître de Pierre, chapitre 3. Première épître de Pierre, chapitre 3, au verset 3 et 4. Il ne s'agit pas de viser les femmes, hein, ici, parce que ça concerne autant les hommes que les femmes. Hein. Mais ça veut dire que dans le monde grec, si vous voulez, il y avait une tendance quand même à se présenter de manière extrêmement honorable au culte, à la prière, etc., de se faire valoir par les bijoux, par les tresses, les vêtements et tout ça. Et Pierre dit, il ne faut pas venir comme ça, il faut venir habillé modestement, sans grand apparat, Il ne faut pas attirer l'attention des autres sur soi. Nous avons tous le regard sur Dieu. Et je demandais à un imam, un ami, pourquoi est-ce que à la mosquée, les hommes étaient devant et les femmes derrière. C'est un grand ami hein, qui est décédé maintenant. Il me disait, mais tu t'imagines si les femmes sont devant, les hommes ne vont jamais prier, ils vont regarder tout ce qu'ils voient. Ils vont évaluer le postérieur et de toutes les femmes qui sont devant eux. Alors il dit, mais on les met, et on met les femmes derrière. C'est un homme honnête. Un autre dirait, c'est l'homme d'abord. Donc faites bien attention, dans cette civilisation grecque, la parure était extrêmement importante. Alors, voici ce que Dieu demande au verset 4, la parure intérieure. C'est Pierre qui le dit, la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Cet esprit doux et paisible, cette pureté incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas, qu'on n'arrive pas à corrompre, qui est forte, c'est quelque chose que Pierre souhaite pour les femmes. Mais, en bas, regardez bien, hein, au verset 7, qu'est-ce qu'il dit ? Pierre dit, « Montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, un sexe qui tombe plus vite en tentation. » Vous me direz, c'est faux. C'est quelqu'un qui a l'esprit macho. Ben, écoutez bien, tous les grands magasins en psychosociologie sont tous étudiés. Tout ce qui est mis dans les grands magasins est étudié en fonction de la psychologie de la femme. 85%. J'ai dû étudier ça, moi, quand je faisais la philosophie, la théologie, pour voir dans quel monde j'étais. Et puis ensuite, les enfants. Et même, c'est pire que ça, quand j'étais prêtre, on disait, si on tient l'enfant, on tient la femme. Si on tient la femme, on tient l'homme. Donc, pratiquement, la femme est donc plus sensible et plus vite s'accroche à des tas de trucs qu'elle voit. Et bon, elle est plus curieuse, elle cherche peut-être plus, hein, c'est pas forcément un défaut, mais elle se fait avoir parce qu'elle cherche plus. Alors, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Moi, je pense pas que c'est péjoratif et que c'est pas pour diminuer la femme. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, elles sont sauvées par le sang de Christ à la croix. Elles ont reçu le Saint-Esprit, il faut les honorer, elles sont héritières de la vie éternelle avec vous. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'est-ce qui peut faire obstacle dans la prière chez un homme? C'est sa rancœur contre son épouse. C'est son esprit de macho contre les femmes. C'est son esprit de soi-disant supériorité, mâle. C'est pas ça que Dieu veut. C'est la même chose que pour la femme. La pureté intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. L'esprit doux et paisible, c'est ce que Dieu demande à tout le monde. Alors, regardez bien, pourquoi je dis ça? Oh, on pourrait dire, tu es en train de défendre tes filles et ta femme, hein? Si j'étais dans certaines églises, on dirait, hein? Mais regardez bien, c'est pas moi qui fais ça, c'est le texte, là. Enfin, verset 8. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donc, clairement, c'est valable pour tout le monde. L'esprit doux et paisible. L'esprit doux et paisible, qu'est-ce qu'il est dit dans l'épître de Pierre? Il est d'un grand prix devant Dieu. D'un grand prix. Quelque chose qui est de grand prix. Une voiture à 600 000 euros, c'est une voiture de grand prix. Tout le monde ne peut pas se payer ça. Hein? Il y a des gens qui achètent des îles pour être tout seuls sur l'île et qui sont riches. Hein? Ils ont l'hélicoptère, ils ont le bateau et tout ça. C'est de grand prix. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est rare. Un cœur doux et paisible et humble est rare. C'est ça que Pierre dit à son église. C'est rare. Analysons-nous quand, comment nous rentrons dans une salle de culte pour être ensemble. Avons-nous cette attitude de grand prix, cette attitude rare parce que Pierre dit que c'est rare. Ça veut dire que il y a un danger à ne pas être dans cette attitude. On trouve la même chose dans le livre des Proverbes, dans l'Ecclésiaste, sur cette attitude intérieure qui ne plaît pas à Dieu. Donc, un véritable cœur qui fonctionne de manière douce et paisible, de manière douce et paisible, est prêt à de grands sacrifices. De grands sacrifices pour Dieu. Et cela suppose trois grâces. C'est celle de savoir qu'on est pardonné par Dieu, gratuitement, à la croix. Deux, de pardonner aux autres, quoi qu'il arrive, de ne pas arriver avec de l'amertume, de la rancune, dans une église, ou autre part, au boulot, avec des athées. Ne pas arriver avec de l'amertume et de la rancune. Prêt à faire des reproches. Il y a des personnes, déjà, à leur regard, à leur attitude physique, on voit déjà qu'ils sont prêts à manger les autres et à faire des reproches. Ça se voit. Et il faut peu de choses et ça explose. C'est anormal pour Dieu, c'est anormal. Et surtout, si on est chrétien, c'est complètement déplacé. Alors, la grâce de Dieu, c'est celle du pardon qu'on a reçu et qu'on donne aux autres. C'est la grâce du désintéressement. Il faut une autre grâce, c'est d'être désintéressé. Quand on prie devant Dieu avec un cœur pur, on est désintéressé. On n'exige rien de Dieu. Et on n'exige rien, on attend ce que Dieu veut. La troisième chose, c'est que cette confiance en Dieu est durable, elle n'est pas passagère. Donc quand je m'approche de Dieu, des autres, je prie avec une attitude, un esprit doux et paisible. Voyons Jacques, chapitre 3, verset 14. C'est un peu avant Pierre. Jacques, chapitre 3, verset 14. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, donc un feu d'amertume, et ça arrive, sachez bien que moi, chaque fois que j'entends quelqu'un, je le vois, qu'il est dans l'amertume, je sais très bien qu'il ne passe pas, il n'a pas fondé sa journée ou sa nuit sur Jésus-Christ. C'est clair, c'est mon diagnostic instantané. Il ne s'est pas reposé sur Christ, il s'est reposé sur lui-même et sur des frustrations, sur des projets qu'il n'a pas réalisés, etc. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre, azelgia, ça veut dire en tout genre, au niveau de la sexualité, au niveau de l'argent, au niveau des pensées, de tout, ça touche tout. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, donc qui vient de Dieu, est premièrement pure, ensuite pacifique. Alors vous voyez que ce que Pierre a demandé aux femmes comme aux hommes, dans les communautés qu'il a fondées, c'est un don d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité. Donc on n'est pas double face, on ne change pas tout le temps, là, d'un pied sur l'autre, suivant qu'on a... on supporte pas l'un, on supporte l'autre, ou on est mal couché, ou on est bien couché, comprenez ? Pas de duplicité, pas d'hypocrisie. Le fruit de la justice, donc de l'obéissance à Dieu, pour recevoir ce don, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est formidable. Parce que nous avons visité, ma femme et moi, beaucoup de chrétiens en France. Et nous le referons sans doute au mois de novembre. Généralement, tous les problèmes viennent de ça, que ce n'est pas réglé. On quitte les églises, on tire la tête au pasteur ou aux autres dans l'église, et on ne sait plus où aller, mais on ne va plus nulle part. Ou alors on reste dans l'église et on garde cette attitude, et on finit par vouloir l'imposer. Alors, pratiquement en France, il y a un gros problème avec le Covid, c'est qu'il y a ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Alors, ceux qui sont vaccinés tentent à faire des pressions sur les responsables d'église, sur le pasteur s'il y en a un, mais souvent c'est les responsables d'église maintenant, les anciens, pour s'en prendre aux autres qui ne sont pas vaccinés. Et il y a une attitude revancharde pour, sur ceux qui ne sont pas vaccinés. Et donc, cette attitude humaine qui vient de quelque chose de cœur, de l'âme, est en train d'empoisonner les églises. Et je communique, j'écris, j'aime bien écrire aux amis pasteurs, etc., d'envoyer des messages. Il faut être solidaires les uns des autres, surtout qu'ils sont plus nombreux, les pasteurs. Et puis certains parmi les fidèles ont des très très grosses maladies, des cancers, etc. Donc, clairement, la sagesse que Dieu a demandée dans la prière est à la base du bon comportement dans une église, mais même hors de l'église. Et je dirais que c'est même valable pour un athée. Hein. Un esprit doux et paisible, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui fera du tour à la société. Et il y a des philosophes romains, latins et grecs, hein, même arabes, qui ont développé des beaux écrits là-dessus. Il y a des poètes russes. Les poètes russes ont fait des belles poésies sur l'esprit doux et paisible. C'est formidable de voir que des hommes et des femmes, même en n'ayant pas cette accroche avec Jésus-Christ, la Bible, sont prenants de cette vérité. Donc Dieu parle à leur cœur aussi, et pas rien qu'aux chrétiens. Et prenons dans Jacques, chapitre 4, verset 13. Jacques, chapitre 4, verset 13. Maintenant, à vous, maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Hein? Oh, j'irai au magasin, j'achèterai ça. Hein? Ou j'irai à droite et gauche, j'ai envie d'acheter ça. Hein? Malheureusement, ça ne se réalise pas. Alors, je ne suis pas content. Vous qui ne savez pas ce qu'il y a, ou je me suis fait avoir parce que c'était de mauvaise qualité. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, donc c'est du brouillard, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Donc, dans notre attitude de prière, le bien est de se mettre en attente de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Et quand on a des colères et des amertumes, eh bien, il faut demander pardon. Il ne faut jamais se croire trop bien. Il faut accepter de demander pardon à Dieu et accepter que Dieu nous lève. Et voyons Jean, chapitre 8, verset 16. Jean, chapitre 8, verset 16. Quand je dis tout ça, c'est parce que je le vis. Hein. Je le vis et c'est pas toujours brillant. Heureusement que Christ est la lumière. Dans 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau. 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mes ténèbres peuvent être là quand je suis au culte. Quand je suis en train de prier, en lire ma Bible, parce que je suis mes intentions, mes désirs, mes pensées, mon moi, et je ne vois plus la lumière de Christ. Je ne vois que moi qui tourne en rond, ou qui fait des projets. Mais si on se tourne vers Christ, et qu'on veut suivre Jésus-Christ, il faut lui dire dans la prière, en commençant la prière, parle, Seigneur, ta servante, ton serviteur t'écoute. Instruis-moi et je t'obéirai, parce que je sais que tu m'aimes et que tu as préparé le meilleur pour moi. Le meilleur que moi, parfois, je n'estime pas être le meilleur. Mais Seigneur, c'est ce que tu as trouvé de meilleur pour moi qui doit se faire. Amen. Alors, dans 8, verset 16, qu'est-ce que j'avais vu Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Donc Jésus a un jugement propre. pas une condamnation sur moi, il a un jugement propre. Et dans la prière, il faut se mettre sous le regard de celui qui me juge, qui m'évalue, qui m'évalue. Je sors de mon égocentrisme, de mon narcissisme religieux, je suis en relation et je reçois la grâce de connaître la pensée de Christ sur moi et pour tout le reste de ma journée et, si possible, pour faire du bien aux autres. C'est extrêmement important, parce que mon jugement est vrai et je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. L'autorité de Dieu dans la prière. C'est extrêmement important, l'autorité de là. Et Dieu est présent et vivant. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 12, verset 8, Jésus dit à Paul, qui est très éprouvé dans la maladie, mais Paul reconnaît qu'il il avait tendance à devenir orgueilleux. Donc, quand il attrape la maladie des yeux, purulent, des formes de crise un peu comme l'épilepsie, mais ça n'en était pas, il est à Éphèse, il est attaqué par des démons, parce qu'il avait mené de grands combats, beaucoup de gens s'étaient convertis, mais les démons s'en prenaient à lui. Et Dieu le permettait. Dieu le permettait, ça ne lui ôtait pas la vie, ça ne lui ôtait pas la foi, ni la vie éternelle. Mais ce qu'il y a, Dieu permettait qu'il soit attaqué, comme Job, si vous voulez. Et Jésus dit à Paul, 2 Corinthiens 12, verset 8, « Ma grâce suffit. Gnade is genug. » C'était chez une femme au nord du Luxembourg où j'allais souvent. Et elle parlait plutôt allemand que français, mais elle était gentille, gentille. Et j'aimais bien d'y aller. Et je venais souvent en dernier avec les casseroles que Marilyn m'avait préparées. Puis on allait manger, on riait bien ensemble. Il y avait un grand panneau sur son mur. Gnade is genug. Ah, c'est magnifique. Elle m'a beaucoup appris parce qu'elle était simple, joyeuse. Joyeuse. 92 ans, toute seule dans une ferme en pleine nature. Je suis là, c'est suffisant pour toi, tu n'es pas tout seul. Alors rassure-toi et fais confiance. Dans Daniel 3, au chapitre 3 de Daniel, les trois copains de Daniel sont mis dans la fournaise. Et le roi, bien sûr, le roi Belshazzar, dit c'est fini, c'est terminé. Mais il envoie, il y avait même de ces hommes qui avaient été brûlés. La fournaise avec du pétrole, bien sûr. Hein. Tout ce qu'on trouve là-bas en Irak, on creuse un mètre, on a du pétrole. Alors, ils faisaient une fournaise avec un bon carburant. Et ce qu'il y a, c'est que quand ils vont voir, les trois hommes sont vivants, leurs vêtements ne sont pas brûlés, et il y a un quatrième. Ils n'en avaient tapé dedans que trois. Le quatrième compagnon, c'est Christ. C'est Christ, le compagnon qui garde ses trois amis. Dans Daniel chapitre 3, le quatrième compagnon. Le compagnon, le mot en latin, ça veut dire celui qui fait le chemin avec moi. Celui qui fait le chemin avec moi. Enoch, dans Genèse chapitre 5, verset 24, Enoch. Ben, Enoch est élevé au ciel, et il prêchait pour Dieu, comme Noé le fera un peu plus tard, mais Enoch marcha toute sa vie avec Dieu, parce que Dieu était avec lui. Il marcha avec Dieu. Alors, la question de notre prière, c'est réellement, je pense que quand la réalité de notre vie, c'est de marcher avec Dieu, il peut arriver que parfois dans notre esprit, nos émotions soient troublées, voire menacées. Mais le Seigneur est toujours là. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et la terre. Sur les cieux et dans la terre, et sur la terre. Matthieu 28, 18 à 20. Ce qui veut dire, dans les grands cas d'occultisme, où moi parfois je suis tombé, c'est assez effrayant, je prenais ces versets-là. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et ça s'arrêtait. Si ça recommençait, je relisais les versets. Ça, ça arrêtait. Et pourquoi ça s'arrêtait? Parce que Christ était là. Et que Satan ne peut faire qu'une chose, c'est s'en aller si Christ est là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, Vous avez bien compris, l'homme passe, mais la prière demeure. L'homme passe, mais la prière demeure. Nos émotions passent, mais la prière demeure. Parce qu'elle est entendue par quelqu'un de tout-puissant. Mes émotions passent, mais la prière demeure. Voilà la richesse de l'homme et de la femme de foi. Et pour ça, pas besoin de diplôme. Il n'y a pas de mérite. Pas plus un pasteur qu'un autre. On est au même niveau. Si quelqu'un est diacre ou pasteur, ce n'est qu'une fonction pour aider les autres. C'est un service, c'est tout. Ce qu'il y a, je pense à ça, dimanche prochain, comme c'est l'école bientôt, il y a quelques visiteurs, c'est Vincent qui prêche, si vous pouviez redonner les fondements de votre école, spirituelle de votre école, et tous les deux, parce qu'il y a des personnes qui entendront, elles seront là, des nouvelles personnes. Alors, nous allons aller plus loin dans Jean chapitre 10, verset 9. C'était au 11, hein, puisque je me suis trompé tout à l'heure. Attendez, hein. Je recommence la même bêtise, et ça devient grave. Voilà, c'est le chapitre 11. C'est pas de vite. Alors, marcher pendant le jour, c'est marcher avec Christ, pour ne point trébucher. Ok ? Et on trébuche le plus, c'est dans notre esprit. C'est pas avec nos pieds, c'est dans notre esprit. C'est au niveau spirituel, au niveau de la pensée, au niveau intellectuel. Bon, maintenant, Jean chapitre 11, verset 9. Vous pouvez fermer les radiateurs hein, si vous avez trop chaud. Alors, je vais allumer pour certaines personnes frileuses, sans citer personne. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, verset 10, il bronche. Donc, et s'il marche sans Christ, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Mais, mes amis, ça s'adresse aux apôtres, ça, aux disciples. Ça veut bien dire que personne de nous ne peut faire le malin. Si nous mettons la communion avec Jésus-Christ de côté, hein, on trébuche, on a payé pour casser. Donc, marcher pendant le jour, c'est voir la lumière que Dieu me donne dans mes pensées pour distinguer, pour ne pas trébucher. Pourquoi ? Parce que pour connaître la décision de Dieu sur ma journée, pour connaître la décision de Dieu pour mon travail, pour un choix, pour un achat, il faut que je sois avec lui et que je le fréquente régulièrement. Pour exécuter fidèlement les pensées de Dieu, il faut que je sois avec lui, je sois en communion avec lui. C'est pas autrement. Jacques le dit dans son épître, hein, vous trafiquez, vous commercez, etc., vous voyagez. Mais si Dieu le veut. Alors, Jésus dit ceci dans Luc 21, verset 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Quand on garde bien le mot en grec, c'est une attitude de fidélité, de fiabilité dans la relation. C'est une relation stable, interpersonnel entre le Christ et moi. C'est ça qui est à la base de ma qualité de persévérance, qui développe en moi d'autres choses, comme la connaissance de Jésus-Christ, l'amour des autres, la relation fraternelle dans les églises, le pardon, etc. Cette persévérance à garder une bonne relation avec Christ, et vous sauverez vos âmes, c'est-à-dire vous garderez vos âmes auprès de Christ, parce qu'on est déjà sauvé par le salut et la croix, mais il faut savoir que tous les jours, on doit être dans cette grâce. Ce pasteur allemand qui a été gazé à Paris de l'air, c'est comment ? Dietrich Bonhoeffer.
Il a été fusillé à la fin.
Fusillé, Dietrich Bonhoeffer. C'est remarquable ces écrits. Moi, ça m'a beaucoup aidé, mais parfois, j'ai envie de pleurer quand je vois certaines choses. Il avait été aux États-Unis, il avait connu les communautés noires qui chantaient du gospel, des chants, et il avait vu voir une foi profonde du cœur. Et il arrive en Allemagne, ouah, le frigo. Et alors, déjà, le nazisme était en train de pénétrer dans l'esprit des chrétiens dans les églises, et beaucoup d'Allemands, chrétiens, catholiques ou protestants, commençaient à obéir comme des petits toutous à l'esprit nazi. Méfiez-vous en France. Moi, je vois ça arriver, en plein. C'est un autre nom, mais c'est le même esprit. Alors, on peut trébucher sans s'en rendre compte. On peut être conduit là où on ne veut pas sans s'en rendre compte. Et ce qu'il y a, pourquoi? Parce qu'on n'est plus sur la grâce. On a bien la croix dans l'église ou sur le clocher de l'église. On a des rites, on fait la Sainte Cène, on fait des baptêmes, mais on n'a plus la grâce. C'est-à-dire, la grâce, c'est la présence de Christ dans mon âme, dans mon cœur. Et c'est mon pain quotidien. C'est mon eau vive quotidienne. Alors là, c'est autre chose que des signes extérieurs. Et quand Dietrich Bonhoeffer est revenu en Allemagne, il a été dans une minorité de chrétiens qui ont voulu résister à cette décadence morale et spirituelle des églises. Oui. C'est comme ça, mais ça vaut la peine de lire ces écrits, ils sont bien traduits en français. Le bon mouvement spirituel de l'âme, c'est d'attendre Dieu et de compter sur lui. C'est la patience envers Dieu. Savoir, allez, dans un peu de temps, tu verras, je répondrai à ta prière. Ou dans beaucoup de temps. Mais je ne te réponds pas tout de suite. N'aie crainte. Je t'ai entendu. Je te vois quand tu pries. Et ça, c'est extrêmement important. Paul dit dans la première Timothée, chapitre 6, verset 6, c'est une grande source de gain, c'est-à-dire au niveau spirituel, de progrès spirituel. Une grande source de gain, et au niveau moral aussi, au niveau témoignage, une grande source de gain, que la piété, donc la foi, la relation avec Christ, avec le contentement. C'est quoi le contentement? J'ai reçu un tout petit peu, j'ai pas reçu autant que je voulais. Dieu ne m'a pas accordé tout ce que je demandais. Alors, je suis frustré, je suis aigri. Cette fois-là, je n'irai pas dimanche au culte. Je serai assis, mais je bouche mes oreilles. De toute façon, je ne veux plus rien entendre. Pratiquement, le contentement, c'est différent. Je suis humblement assis, où que ce soit, à la gare, dans le train, et je suis dans le contentement, je suis en paix avec le Seigneur. J'ai un esprit doux et paisible. Et je prie dans le train, je prie dans le bus, je prie quand je me promène dans la forêt, je prie quand je rencontre quelqu'un dans le magasin, et puis je suis tout de suite joyeux pour le rencontrer. Tout de suite joyeux. Donc la piété, le contentement, donne le dynamisme réel. Évitons les redites, comme si Dieu était sourd. J'ai Dieu à demander, je te le redemande. Et puis, vas-y, néné, ça, je te remets ça. Il y a eu beaucoup de réfugiés ici. Il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens de différentes tendances, orthodoxes, etc. Il y a même eu deux juifs. Et ce qu'il y a, c'est que chacun prie à sa manière. Mais j'ai constaté, comme ils étaient dans une situation difficile, il y a ceux qui vraiment prient avec foi, dans la bonne attitude spirituelle, et Dieu faisait des signes. Il était guéri du sida, guéri de la tuberculose, hein, guéri de la dépression, guéri des séquelles de tous les viols qu'ils avaient subis, hommes et femmes. Hein. Et puis d'autres, ils priaient, il n'y avait jamais rien qui arrivait. Alors je dis, mais tu vas arrêter de prendre Dieu, de le mettre à tes ordres. Tu jeûnes, tu pries et tu veux que ma volonté soit faite. Non, que ta volonté soit faite. Change un peu d'attitude, tu verras, ça ira mieux. C'était là. La personne me tirait la tête, évidemment, parce qu'elle n'était pas contente, elle était têtue, comme une bourrique, mais ce qu'il y a, tôt ou tard, elle avait compris. Même si ça a pris 2-3 ans, elle a compris qu'elle avait tort, et tout d'un coup, cette personne, au lieu de me tirer la tête, revenait dans l'amour. Dans l'amour et dans l'humilité. Donc, quand on évite les redites, c'est parce qu'on sait que Dieu est sérieux, il a entendu. C'est lui qui a créé toutes les oreilles, qui a créé tous les yeux. Il voit tout, il sait tout. Donc, nous sommes dans un état permanent, une manière fixe et durable de confiance envers notre Seigneur Jésus. et vers notre Père. Nous sommes dans un état permanent, une manière fixe et durable de confiance. Bon, on a beau dire tout ça, c'est clair que nous avons tous des hauts et des bas. Hein. Mais enfin, il vaut mieux avoir des grandes lignes bien constantes que bing, et puis on dégringole en bas et on ne sait plus où on en est. Et puis on fait du tort aux autres par les mots, par les attitudes. Beaucoup aimé et beaucoup désiré le plan de Dieu. C'est la clé de la prière. Beaucoup aimé et beaucoup désiré le plan de Dieu. La réalisation du plan de Dieu. Ça, c'est le cœur de la prière. Regardez, le petit Samuel, il a grandi avec un prêtre, mi figue, mi raisin, Élie, et puis avec les fils qui faisaient n'importe quoi, hein, qui étaient corrompus, qui ont même entraîné la perte de l'Arche d'Alliance. Les Philistins ont pris l'Arche d'Alliance, et ils sont morts d'ailleurs. Mais ce qu'il y a, le petit Samuel, j'avais dit Élie, le petit Samuel a avancé, grandi, et il a servi Dieu. Il a fait le tour de toutes les villes, les localités d'Israël, pour relancer la foi. Pourquoi ? Parce qu'on voit dans le livre de Samuel, il ne laissait tomber ni à gauche ni à droite, à terre, des paroles de Dieu que Dieu lui donnait. Des paroles que Dieu lui donnait dans son âme, dans son cœur, il ne laissait pas tomber à gauche ni à droite, à terre. Alors, cet homme-là a fait un bien fou à son peuple, et nous sommes appelés à avoir la même attitude. Nous sommes dans une grande période de décadence de la foi chrétienne, il faut absolument faire ça. Nous avons été partis 21 jours, on recommencera encore. Il faut relancer le feu, rallumer le feu et remettre du bois dans le fourneau. Il faut que les chrétiens retournent à la véritable relation profonde avec le Seigneur. Et dans les contacts, là, je vois certains, ça a payé les prix, ça a porté ses fruits. Une personne, elle, c'est devenue comme du béton à l'extrême opposé. Forcément, on provoque quand... Même si on est gentil avec des attitudes, des paroles comme je les ai, on provoque des réactions. Nous devons prier avec l'intention que ça profite toujours à toutes les âmes qui nous entourent. Nous devons toujours prier dans une attitude d'offrande, d'ouverture. Que ça profite. Si ça, tu fais du bien à moi, si ça fait du bien à moi, Seigneur, ça va profiter aux autres. Si tu opères ta volonté en moi, ça va faire du bien à ceux qui m'entourent, à ceux que je vais rencontrer, dans le bus, dans le magasin, dans le jardin, etc. Et cela, c'est une attitude profonde qu'il faut avoir. L'intention que ça profite à toutes les âmes. On est loin du narcissisme, hein, et du moi-je. On sert l'amour de Dieu pour le monde. On sert pour l'amour de Dieu et pour sa gloire. Donc, 2 Corinthiens 8, 9. On va avoir bientôt fini, les cloches sonnent. 2 Corinthiens 8, 9. Devant certaines, choses, les amis, hein, j'ai trois connaissances, pasteurs qui ont une maladie grave, qui sont condamnés à mort. Et je prie, je répète continuellement mes prières, continuellement pour eux, en suppliant, pas des ritournelles, pas toujours les mêmes mots. Mais je dis, Seigneur, pour un, tu ne fais rien, il va mourir, tu le laisses mourir. Clairement, je vais vous dire, j'étais tout près de mon oncle qui avait 93 ans, qui nous a toujours aidés dans le jardin, qui était un homme solide, qui faisait 5-6 km à pied tous les jours, qui était gentil. Il s'appelait Jean Bayeux. Et il habitait là où habitent Vincent et Véronique. Et il voit que sa sœur Maria est en train de mourir, et du jour au lendemain, il est ébranlé, il attrape une infection pulmonaire, et en 24 heures, il meurt. Quelques heures avant, j'avais averti le médecin. Il faut vite le mener aux urgences. Il ne m'a pas écouté, on verra demain matin. Quand il est arrivé, j'ai vu la tête du médecin. concernés. Et j'avais compris, moi aussi d'ailleurs, j'avais travaillé à l'hôpital militaire un an. On arrive à l'hôpital, le médecin vient me dire, vous savez, il n'en a plus pour longtemps, hein, si vous voulez rester tout près de lui. Je tenais sa main, il y avait une masse d'oxygène, il me regardait. Et mon oncle faisait ça. Tout joyeux. J'avais prié, Seigneur mon Dieu, si tu pouvais encore nous le garder tout un temps. Et dans la prière, le Seigneur me répondait ceci, non, Jean, ils vont partir tous les deux parce que ta femme est au bout du rouleau, autrement c'est elle qui va mourir. Tellement il lui occasionne du travail. Tellement ils occasionnent du travail à Marie-Hélène. Je les reprends. Et ils sont partis. J'avais la paix. Quand les pompes funèbres sont arrivées, hein, avant de fermer le cercueil, nous ont appelé à la morgue et nous ont dit, venez les voir. Le regard de l'oncle, vers le ciel, vers le haut, c'est comme s'il voyait Dieu. C'est comme s'il avait un feu d'artifice dans son âme. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il y a eu les camps des enfants, il écoutait les enseignements donnés aux enfants. Il écoutait, il prenait sa chaise, il allait écouter. Et quelque temps avant, quand il avait été opéré, et qu'il avait perdu beaucoup de sang, on lui avait demandé, Marie-Hélène et moi, s'il était sauvé. « Oh oui, 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 Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. J'ai confiance en lui. » Donc, il avait fait le tour du problème en entendant les enseignements pour les enfants. Son cœur était ouvert comme celui des enfants. Et c'est pour vous dire que la prière donne une immense liberté face à la mort. Mais l'incrédulité et la fausse prière donnent une immense terreur devant la mort, immense angoisse. On ne peut pas s'y tromper quand on voit quelqu'un au moment de sa mort. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Ah oui, menuisier charpentier pendant 30 ans, etc. Et puis encore même après, hein. De riche qu'il était, puisqu'il était Dieu, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc Jésus s'est fait tellement pauvre, tellement humble, que je peux, dans la prière, rencontrer quelqu'un qui ne m'écrase pas. Il ne m'écrase pas dans la prière. Il comprend mes faiblesses, il compatit à mes... quand je trébuche. Il compatit à, je dirais peut-être mon hérédité, à des tas de choses, la déformation de mon métier, de l'école ou des métiers, de la famille, que j'ai en moi. Il compatit. Il est tellement pauvre, il se fait proche de moi. N'oubliez jamais que Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, à ses apôtres. Le premier pauvre, c'était lui. Il est mort sur la croix, crucifié, comme un chien. On pensait qu'il était là pour détruire la religion de Moïse, on le considérait comme un envoyé de Satan. Il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Il s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. La richesse de Christ est incommensurable. La personne de Christ est fantastique. Méditez cela. Les spirituels, il y a des gens très spirituels dans l'orthodoxie, il y a des beaux livres, hein, des belles poésies, des prières, des starets, comme on appelle ça, les starets, des gens qui contemplaient, qui priaient de Christ. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que chez les évangéliques, hein, des fois. Il faut cesser avec ce truc-là. Alors, Philippiens 2, 7. Jésus s'est dépouillé lui-même, donc il a tiré ses vêtements de gloire, hein, et en prenant une forme de serviteur, doulos, esclave, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si Jésus a cette capacité de s'approcher de moi d'une manière aussi simple, pourquoi je me refuse à une relation profonde avec lui ? Ma parole. Qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux alors si je n'accepte pas une telle attitude du Fils de Dieu. Il me faut un président de la République, un grand banquier tout près de moi. Il me faut quoi? La super nana dans les films à côté de moi pour être heureux? Le grand intellectuel qui a fait des tas de livres? Mais non! Nous avons l'homme le plus riche sur la terre, c'est Jésus. L'homme passe la prière de meurtre. Jean 11, 40. Jean 11, 40. Verset 40, il dit à Marthe, hein, la sœur de Lazare, hein, et il est devant le tombeau, hein, il frémit, pour la deuxième fois il frémit. En grec ça veut dire, il est irrité, fâché contre la mort, contre ce règne de mort qui est venu sur la terre depuis qu'il y a eu le péché. Il est irrité, la mort est son ennemi. Alors il est là pour montrer sa victoire. Alors, verset 40, 11 verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Simplement, dans une véritable relation profonde avec le Seigneur Jésus, il y a des trésors de gloire qui sont révélés. Des trésors de gloire qui sont révélés, chers amis, ne l'oubliez jamais. Seriez-vous contre ce trésor de gloire? Alors je n'y comprends plus rien. Ce qui est sûr et certain, c'est que notre monde d'aujourd'hui a besoin de ce trésor de gloire. Beaucoup d'hommes et de femmes. Soyez persévérants, soyez patients, priez pour tout le monde. Ayez un bon témoignage. Que des âmes découvrent ce vrai trésor. Vous savez que dans les dernières paraboles de Matthieu, les dernières qui accomplissent notre époque, Matthieu chapitre 13, il y a un homme riche, il a de grands trésors et il achète un champ parce qu'il sait qu'il a un trésor plus grand qui est caché dans le sol. Ça c'est à la fin de la chrétienté, avant le retour de Jésus, c'est la chrétienté qui est engluée dans le fric et l'argent. Oui. Et cette chrétienté doit abandonner ses idoles financières et économiques, ses mensonges aussi, et retrouver dans le champ, ce trésor caché, Jésus-Christ. Alors, il y a une autre parabole à la fin de Matthieu 13, où c'est un homme qui a plein de belles petites perles, hein, ça peut être une femme, hein, un être humain a plein de petites perles. Et puis, il apprend que dans un champ, il y a une très très grosse perle, d'un prix inestimable dans le champ. Alors, il vend toutes ses perles, il achète le champ, et puis il tire et il ôte, secrètement, la grosse perle pour lui. Alors, c'est quoi? Rappelez-vous que Jésus a dit, je ne donne pas la perle au pourceau, au cochon. Donc, nous avons souvent, dans nos églises, dans nos mouvements chrétiens, des perles. Nous avons des morceaux de chrétienté, de christianisme, des morceaux d'évangile. On les met en parure et on se contente de ça. On se contente de ça. Et donc, à la fin des temps, clairement, dans une des dernières paraboles de Jésus, il est clair, il faut abandonner toutes ces fichues perles qui nous font de l'illusion d'être chrétien, et il faut tout renoncer pour avoir la perle. La perle de Dieu, le Christ, dans nos vies. Soyez bénis, que la gloire du Seigneur soit dans nos vies, que l'Esprit Saint nous conduise. Nous avons un présent et un futur merveilleux avec notre Seigneur. Quoi qu'il nous arrive, soyons sur l'écoute, aimons-le plus que nous-mêmes, et parce que nous aimons, parce que nous acceptons l'amour de Christ, laissons-nous déborder d'amour pour les autres, pour tout le monde, qu'il soit athée, qu'il soit homosexuel, qu'il soit transgenre, ayons de l'amour pour tout le monde. Ce n'est pas pour ça que nous sommes d'accord avec tout ce qui se fait, mais ayons de l'amour pour tout le monde. Pas d'amertume. Regardons avec paix et avec amour notre prochain comme Jésus nous regarde et nous aime. Amen. Amen.